Alors, on va tourner dans le passage qui avait été donné là, dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. L'adage qui dit « mieux vaut tard que jamais », mais c'est mieux d'être à l'heure que d'être en retard. Je le complète. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Vous connaissez tous ce passage-là. Jésus nous dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, vous tous, sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Seigneur, en premier lieu, je veux te remercier pour ta bonté, ta grâce envers nous, ton accueil, Seigneur, que tu es toujours un Dieu qui nous attend, qui nous écoute, qui nous reçoit par ta grâce. Et Seigneur, que tu puisses bénir ces quelques instants ensemble. Bénis mes frères et mes sœurs de cette assemblée aussi, Seigneur, et qu'on puisse jamais se priver de toi, de ta gloire, de ta présence, Seigneur Dieu, et de ta bonté et de ta grâce envers nous, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si on regarde dans ce passage qu'on vient de lire, juste avant, dans le chapitre 11, le Seigneur, plutôt Matthieu nous rappelle que après avoir rassuré Jean-Baptiste, les premiers versets nous parlent vraiment que Jean-Baptiste a eu besoin d'être rassuré. Jean-Baptiste était emprisonné et qui était probablement en proie au découragement. Et donc, ayant besoin d'être rassuré, demandait si Jésus était celui qui devait venir, le Messie promis, ou si on devait en attendre un autre. Jésus lui va confirmer en disant qu'il est bien celui qui devait venir au verset 5, en disant « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et Jésus, lorsqu'il mentionne ça aux gens que Jean-Baptiste a envoyé, il fait écho au passage messianique du prophète Ésaïe. Quelques versets que je vous donne ici, Ésaïe chapitre 29, versets 18 et 19, ça dit « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. » Il fait allusion également à Ésaïe, chapitre 35, versets 3 à 6. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. » Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et il fait allusion également à Ésaïe, chapitre 61, verset 1, lorsque Jésus avait mentionné ou avait lu ce passage-là aussi dans la synagogue de Nazareth, qui disait « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, c'est alors sur Jésus, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Donc, comme je viens de mentionner, Jésus a pris cette lecture lorsqu'il est rentré dans la synagogue de Nazareth et où on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Donc, je viens juste de le mentionner. Et puis, dans ce passage-là, dans Luc 4, verset 20, ça nous dit « Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Je répète ici, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors Jésus prononce effectivement des paroles de grâce car il est la manifestation en chair de la grâce de Dieu, celui que Dieu a donné, c'est-à-dire son Fils unique. Et ces paroles de grâce, non seulement réconfortent, mais comportent en elles-mêmes la puissance de créer et de recréer. On vient de le voir dans le passage ici. Dans les miracles qu'il accomplit et qui viennent d'être mentionnés plus haut, cela reprend une recréation des yeux, une recréation des oreilles, des pieds, de la langue, de la peau, du corps tout entier pour la résurrection, entre autres. Pour les lépreux, c'est la peau. Pour les boiteux, c'est les pieds. Les oreilles pour les sourds. Les yeux pour les aveugles. Mais il faut dire aussi que la parole de Dieu, non seulement pour une parole créatrice pour le corps, mais dans les miracles d'une nouvelle vie, qui est aussi un miracle qui est d'autant plus merveilleux qu'une guérison physique, il y a vraiment une recréation qui se fait. Alors, lorsque Jésus parle, il confère une nouvelle vie aux pécheurs qui sont morts dans leurs péchés. Ça, c'est un peu le passage, le début du chapitre 11, qui nous parle vraiment de ce que le Seigneur vient confirmer à Jean-Baptiste pour le rassurer, pour lui dire « Oui, je suis vraiment celui qui devait venir. Selon les Écritures, j'accomplis tout. » Donc, par la suite, Jésus confirme à Jean que Jean a plutôt été l'Élie dans les versets plus loin, verset 7. Au verset 19, Jésus confirme que Jean était l'Élie qui devait venir, un prophète et plus qu'un prophète. Jésus était celui qui devait préparer, plutôt Jean était celui qui devait préparer le chemin du Seigneur et l'annoncer. Jean-Baptiste le mentionne en Jean chapitre 1, verset 29, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et dans le contexte encore un peu plus loin, dans les versets 20 au verset 24, Jésus procède par la suite à des reproches aux villes de Chorazin, de Bethsaïda, de Capernaum, qui ont vu les miracles qu'il a effectués en leur sein. Ces villes ne se sont pas repenties et ont refusé de reconnaître Jésus comme Messie. Ils ont pourtant vu de leurs yeux les signes qui ne laissent aucun doute que Jésus est celui qui avait été annoncé et promis. Leur sort est qu'au jour du jugement, Tyr, Sidon, Sodome seront traités moins sévèrement qu'elle. Imaginez-vous, on parle de Tyr, Sidon, Sodome qui a été détruite par le feu parce que le comble du péché avait vraiment été retrouvé dans Sodome, entre autres. Mais il y a un péché qui est encore plus grave, c'est de refuser le Messie promis. C'est vraiment le comble du péché, c'est vraiment de dire... Je sais, peut-être c'est peut-être le Fils de Dieu, c'est peut-être le Messie promis, mais je le refuse. Ça, c'est le comble au péché. Le péché se manifeste de toutes sortes de choses, comme on le mentionne dans Romains chapitre 1, mais de refuser le Fils de Dieu comme sauveur, comme Messie promis, c'est vraiment le comble au péché. D'ailleurs, Matthieu, si vous lisez un peu plus loin dans Matthieu chapitre 12, après ça, vous allez vous apercevoir qu'on parle... que les pharisiens et les responsables, justement, religieux, ont dit que Jésus faisait ses miracles par l'œuvre de Satan. Donc, ça, c'était... Il annonçait déjà que le peuple était pour le rejeter à ce moment-là. Ça, c'est vraiment le comble, comme je mentionne. Versets 25 à 27 du chapitre 11 nous dit que Jésus mentionne que ce ne sont pas les sages et ceux qui se croient sages et intelligents à leurs propres yeux, ni ceux qui se croient justes à qui le Père a révélé les vérités et les réalités du royaume. Donc, je répète, ce ne sont ni les sages, ce ne sont ni les personnes qui se croient sages, ce ne sont non plus les personnes intelligentes ou se croient intelligentes à leurs propres yeux à qui le Père a révélé les vérités et les réalités du royaume, mais aux simples, aux humbles, aux enfants et ceux qui ont l'attitude de dépendance et de confiance de l'enfant. Et on peut se rappeler de ce que le Seigneur Jésus a dit. À un moment donné, il dit, « Si vous ne devenez pas comme ses enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. » Jésus le répète ici également. Puis rappelons-nous aussi de la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, imbu de lui-même, se croyant juste et bon devant Dieu, méprise le publicain. Le publicain, de son côté, il n'ose même pas lever la tête et il dit qu'il est pécheur. Et le Seigneur nous pose la question, qui est retourné à la maison justifiée? C'est le publicain, à cause qu'il a reconnu son péché et sa dépendance envers Dieu également. Donc, il demandait la miséricorde du Seigneur. Le verset 27 nous montre que le Père et le Fils sont en communion parfaite et que toutes choses ont été données au Fils par le Père. Et Jésus nous dit ici que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par le Fils. Lorsqu'on regarde ces différents textes, et avant d'aller plus loin, le texte nous montre qu'il existe deux groupes. Premier groupe, c'est ceux qui rejettent Christ, les impénitents. Malgré toutes les preuves, tous les miracles, tous les signes qui ont été faits au milieu d'eux, comme on parlait tantôt de Chorazin, des Bethsaïda et de Capernaum, il y a ces gens-là qui rejettent le Christ malgré tout. Ces gens-là sont considérés comme étant les sages et les intelligents selon les standards du monde et de l'homme naturel qui est séparé de Dieu. Mais il y a un deuxième groupe aussi, ceux qui ont besoin de lui, qui sont comme les enfants, qui dépendent et qui ont besoin de leurs parents. Ensuite, verset, comme on vient de lire à partir du verset 28, ensuite vient l'invitation. Venez à moi, c'est ça que Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'invitation est offerte à tous, mais seulement certains vont répondre. Ceux qui ont vraiment la dépendance d'un enfant, ceux qui ont l'attitude d'un enfant également. Et le Seigneur les reçoit. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le livre « Doux et humble de cœur ». Peut-être que je l'ai déjà mentionné ici à un moment donné, qui a été écrit par Dane Ortlund. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Oui, notre sœur Diane, c'est ça? Daniel, OK. Désolé. Dane Ortlund donne la définition aussi de... Parce que le verset 29, ça dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donne la définition suivante, je vais vous le citer. « Je suis doux. » Le mot grec ici rendu par « doux » n'apparaît que trois autres fois dans le Nouveau Testament. Première place, c'est dans la première béatitude, disant que les débonnaires vont hériter la terre. Donc, ça, quand on parle de débonnaires, on parle des personnes qui sont douces. Dans la prophétie de Matthieu, chapitre 21, verset 5, excusez-moi, citant Zacharie 9:9, disant que le roi Jésus vient à toi plein de douceur et monté sur un âne. Et le troisième endroit, c'est dans l'exhortation que Pierre adresse aux femmes pour les encourager à chérir plus que toute autre chose. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. 1 Pierre 3, verset 4. Débonnaire, doux, je cite encore le Ortlund, Jésus n'a même pas la gâchette facile, il n'est ni dur, ni réactionnaire, ni irascible. Il est la personne la plus compréhensive de l'univers. Il est dans sa nature profonde, non pas d'accuser les gens, je répète, il est dans sa nature profonde, non pas d'accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. On parle ici de doux, verset 29, mais aussi on parle de l'humilité de Christ aussi, humble de cœur. Ortlund poursuit en disant, la signification du mot humble chevauche celle du mot doux en ce sens qu'elles communiquent ensemble une seule et même réalité au sujet du cœur de Jésus. Il faut toutefois noter que dans le Nouveau Testament, le mot grec rendu par « humble » ne désigne généralement pas l'humilité en tant que vertu. L'humilité équivaut plutôt à la pauvreté ou à l'affliction. C'est ainsi que l'on utilise en général ce mot grec dans les traductions grecques de l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes. Dans le chant de Marie, lorsqu'elle portait Jésus, par exemple, ce mot est utilisé pour parler de la façon dont Dieu élève ceux qui sont humbles. Paul utilise le même mot lorsqu'il nous dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Romains chapitre 12, verset 16. Malgré la gloire resplendissante, sa gloire resplendissante, sa sainteté éblouissante, son unicité et son altérité suprême, jamais personne dans l'histoire n'a été plus accessible que Jésus-Christ. Il n'impose aucune condition, aucune exigence. En commentant Matthieu chapitre 21, 11, verset 29, B.B. Warfield a écrit « Sa vie n'a laissé empreinte plus profonde sur le cœur de ses disciples que celle de son comportement humble et noble. » Alors, on voit vraiment que, selon l'Écriture, Jésus est non seulement doux, il est humble, il est accessible. C'est pour ça que son invitation doit aussi nous interpeller aussi. On doit aller vers lui. Le Seigneur nous appelle à aller vers lui. Et le Seigneur veut montrer là-dedans aussi que on a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Je continue avec Ortland qui dit, « Pour que Jésus nous serre dans ses bras, nous devons à tout le moins nous ouvrir à lui. Tout ce qu'il demande, c'est ce que nous ouvrions à lui. » Matthieu 11, 28 nous dit explicitement qu'il se qualifie pour communier avec Jésus. Qui se qualifie plutôt pour communier avec Jésus? « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous n'avez pas à vous décharger ou à vous ressaisir pour ensuite venir à Jésus. Ça, c'est une habitude qu'on a. Souvent, on a l'impression qu'on doit s'approcher du Seigneur, puis on doit laisser nos fardeaux, on doit s'approcher de lui comme étant un peu plus acceptable. Ça, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive souvent, tu sais, de dire, bien, ah, j'ai encore failli, tu sais, j'ai encore péché, mais le Seigneur va se tanner de moi. Au contraire, le Seigneur veut qu'on s'approche de lui dans toutes les circonstances. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion également. Il s'identifie à nous, non pas dans notre péché, c'est sûr. Jésus n'a jamais péché, n'a jamais connu le péché, mais il s'identifie selon les souffrances, les faiblesses qu'on a aussi. Donc, que vous travaillez activement et assidûment à épierrer votre vie, donc si vous êtes fatigué à le faire, ou que vous crouliez passivement sous quelque chose qui échappe à votre volonté, donc vous êtes chargé. Jésus-Christ désire, peut-être même plus encore que vous trouviez du repos, que vous sortiez de la tempête. Doux et humble, voilà le cœur même de Christ, selon son propre témoignage. C'est ce qu'il est. Tendre, ouvert, accueillant, conciliant, compréhensif, bien disposé. Si l'on nous demandait de ne décrire qu'un seul trait de Jésus, nous serions fidèles à ses enseignements en le disant doux et humble de cœur. Et je veux juste citer une dernière chose avant de poursuivre. Au sujet du verset 29, quand ça dit ici, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Est-ce que quelqu'un peut me décrire c'est quoi la signification? Qu'est-ce qu'un joug? C'est... Exactement, c'est ça. C'est vraiment des pièces de bois qu'on met autour du cou de deux bœufs. Habituellement, c'est deux bœufs qui sont ensemble là, pour faire le travail par la suite qui doit être fait par... Oh, exactement. Mais Ortland nous dit, en parlant du joug, c'est important, je pense que c'est important qu'on puisse entendre ça aussi, c'est que il faut considérer ce que Jésus est en train de dire. Le joug est la lourde pièce de bois que l'on met sur le cou des bœufs pour les atteler aux instruments aratoires. Jésus ici use ici d'un genre d'ironie en disant que le joug dont sont attelés ses disciples ne sont pas un joug en réalité. Je recommence, excusez-moi. Jésus use ici d'un genre d'ironie en disant que le joug dont les attelés, dont le joug dont sont attelés les disciples n'est pas un joug en réalité, sinon un joug de bonté. Qui pourrait résister? Ce serait comme dire à un homme qui se noie, qui doit prendre sur lui le fardeau d'un gilet de sauvetage et l'entendre nous crier en buvant la tasse, « Pas question, pas moi! » C'est assez difficile comme ça, de couler dans les eaux déchaînées. La dernière chose dont j'ai appris, c'est du fardeau additionnel d'un gilet de sauvetage autour de mon corps. Or, c'est pourtant ce que nous faisons tous. Lorsque nous confessons Christ d'élève, tout en évitant couramment de communier étroitement avec lui, en raison d'une mauvaise compréhension de notre cœur. Et Ortland souligne ici, il ne se contente pas de répondre à nos besoins, il s'y associe également. Il ne se lasse jamais de nous prendre dans ses tendres bras. Son cœur est ainsi fait. Moi, j'ai comme l'impression que souvent, on est un petit peu comme Adam et Ève. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ce qu'ils ont fait... Premièrement, ils se sont cachés. Deuxièmement, ils se sont revêtus des feuilles de figuier. Mais le Seigneur, lui, a été à leur rencontre. Parce que le Seigneur voulait accorder sa grâce, le Seigneur voulait accorder son pardon, le Seigneur voulait accorder également le sacrifice qui était pour prendre leur place aussi, pour prendre leur péché également. Donc, vraiment, si on peut tourner dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, le Seigneur s'identifie parfaitement à nous. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Vous connaissez bien ce passage également. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, je répète verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La conséquence est, approchons-nous donc avec assurance, sachant qu'il s'identifie avec nous, approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Lorsque justement le verset 15 dit qu'il peut compatir à nos faiblesses, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. C'est comme affronter. C'est justement, Doug Ortlund utilise une allusion à un moment donné où ce qu'une personne va marcher sur la plage ou n'importe où et il fait face à un vent, et un vent qui est contraire et qui est de plus en plus fort contre lui, contre l'homme. La seule chose que l'homme peut faire pour se protéger, c'est de se coucher pour essayer d'éviter la force de ce vent-là. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué à aller contre ce vent-là, ce vent de tentation, ce vent ce vent de souffrance, etc. Il a continué à aller contre ce vent-là qui soufflait de plus en plus fort, tellement fort qu'il a pris le sacrifice, dans son sacrifice, il a pris chacun de nos péchés, il l'a porté à la croix, sans broncher, vraiment sans broncher. Puis c'est à cause de sa victoire. Dans le fond, comme j'avais déjà dit, on est vraiment sauvé par les œuvres, mais par les œuvres de Christ. Le Seigneur a accompli une œuvre qui nous dépasse, une œuvre qui fait en sorte que maintenant on peut s'approcher de lui avec assurance maintenant. Il a pris le péché, il a pris nos fautes, il a pris aussi nos faiblesses. Et il demande vraiment de s'approcher de lui. L'insulte à Jésus, c'est pas... Il sait qu'on va pécher. Quand il nous a choisis, il savait qu'est-ce qu'on était pour faire dans notre vie. Il savait qu'il choisissait des gens qui étaient pécheurs jusqu'à la moelle, on peut dire. Mais il savait que par sa grâce, il était pour nous transformer. L'insulte qu'on pourrait faire à Jésus, c'est de ne pas s'approcher du trône de la grâce, de ne pas s'approcher lorsqu'il nous invite. Il faut se poser la question, est-ce qu'on le fait des fois? Est-ce qu'on a tendance à s'empêcher de le faire? Mais en tout cas, je vous encourage qu'on puisse le faire constamment. Donc, comme on vient de lire, Jésus s'identifie parfaitement à nous dans nos faiblesses et aussi dans nos souffrances. Sa douceur, sa bonté, sa compassion sont étroitement liées. Rappelez-vous de la femme avec la perte de sang à un moment donné. Cette femme-là qui arrive, ça faisait plusieurs années qu'elle cherchait d'avoir une solution, a été voir des médecins, dépenser de l'argent. Il n'y avait pas de solution pour sa situation. Cette femme-là a décidé de dire, « Je vais aller dans la foule, puis même si je suis cérémoniellement impur, plutôt, là, de façon à cause qu'elle savait de cette perte de sang-là, elle a décidé, si je peux toucher le bord de son vêtement, elle n'a pas empêché la foule qui l'entourait de s'approcher de Jésus. Mais le Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il l'a appelé à la fin? Vous souvenez-vous comment est-ce qu'il a appelé cette femme-là? Lorsque... Exactement, c'est ça. Il a su qu'il y avait une force, justement, qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Pourtant, il y avait une foule qui le pressait. Puis même ses disciples, ben oui, mais il y a un paquet de gens qui te pressent. Non, il savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché. Mais à la fin, lorsqu'il se retourne vers cette femme-là, il n'y a pas de reproche à lui donner. Il ne la condamne pas du tout. Il l'appelle ma fille. Donc, la compassion de Jésus est étroitement reliée à sa bonté et à sa compassion. Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas se priver d'aller devant le Seigneur, aller à son trône de grâce. En terminant, je veux juste vous citer un autre passage. C'est encore Ortlund qui cite maintenant John Bunyan, qui avait écrit un livre, le livre qui s'appelle « Come and Welcome to Jesus Christ ». Un des versets préférés qu'on dit de John Bunyan, c'est le verset dans Jean chapitre 6, verset 37, qui dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, c'est vraiment un verset qui est parallèle avec le verset qu'on vient de lire aussi dans Matthieu, en disant que, dans le fond, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, le Seigneur nous invite encore dans ce verset-là de s'approcher de lui. Puis, il mentionne justement tout ce que ce verset contient. « Tous ceux, les premiers mots, et non pas la plupart. » Donc, dès lors que le Père impose son tendre regard sur un pécheur s'étant égaré, le secours de ce dernier est assuré. Tout ce que le Père, notre rédemption n'est pas le fait d'un fils riche en grâce qui cherche à calmer un père au tempérament coléreux. C'est le Père qui ordonne lui-même notre délivrance. Il prend l'initiative par amour pour nous. Tout ce que le Père donne au fils, donc le mot « donne », c'est pas le mot négocier dans ce cas-ci. Le Père est ravi de confier librement ses rebelles récalcitrants au bon soin de son fils, parce qu'il sait que lorsque la personne s'approche de lui, il va être transformé par la grâce et la bonté du Seigneur. Viendront, donc tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Rien ne plus peut contrecarrer les desseins rédempteurs de Dieu envers un pécheur. Rien ne lui résiste. Ses ressources sont inépuisables. Si le Père nous appelle, nous viendrons à Christ. Et celui qui vient à moi, ça dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous ne sommes pas pour autant des robots. Bien que le Père veille manifestement sur notre rédemption, selon sa souveraineté, et ne nous force pas à aller à Christ contre notre gré. La grâce divine est si radicale qu'elle vient transformer en nous jusqu'à nos désirs. Elle nous ouvre les yeux. Christ devient magnifique. Nous venons à lui et tous rendus ici par celui sont les bienvenus. Soyez les bienvenus auprès de Jésus-Christ. Et Bunyan, en terminant, qui dit aussi, à un moment donné, on peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas s'approcher de Jésus. Toutes sortes d'excuses. Et il illustre de cette façon, suivante, en disant, ou en préfigurant qu'est-ce qu'on pourrait dire comme excuse pour ne pas s'approcher de Dieu ou de ne pas s'approcher de Christ. Ça dit, une des raisons, « Je suis un grand pécheur, dites-vous. » Répète, « Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais je suis un vieux pécheur, dites-vous, je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais je suis un pécheur endurci, dites-vous, je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais je suis un pécheur rétrograde, dites-vous, je ne mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais j'ai servi Satan toute ma vie, dites-vous, je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais j'ai péché contre la lumière, dites-vous, je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais j'ai péché contre la miséricorde, dites-vous, je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » « Mais je n'ai rien de bon à porter avec moi, dites-vous. » Le Seigneur Jésus-Christ répond encore, « Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » En d'autres mots, la seule chose qu'on peut apporter au Seigneur, c'est nos besoins, nos péchés, notre finitude, notre incapacité. Mais le Seigneur nous dit, nous répète constamment, « Je ne te mettrai pas dehors si tu viens à moi. » C'est aussi simple que ça. Alors, pour ceux peut-être qui doutent, pour ceux peut-être qui pensent, est-ce que le Père m'aime vraiment? Est-ce que le Fils m'a vraiment reçu? Le Seigneur nous répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Puis aussi, je ne vous mettrai pas dehors si vous venez à moi. Ceux qui ont besoin de recevoir l'amour de Dieu ce matin, cet après-midi plutôt, faites-lui confiance, allez vers lui. Puis ce n'est pas une question de sentiment. Souvent, on a l'impression en disant, bien, peut-être que ma repentance n'est pas assez sincère. La vraie obéissance, vous vous souvenez à un moment donné quand Jésus, il dit, je ne sais pas si c'est dans quel passage, mais il dit, il y a deux personnes qui disaient que, mettons, il y a un maître qui dit, bien, est-ce que tu vas venir faire telle chose? La personne dit oui, puis il dit, après ça, elle ne le fait pas. L'autre personne dit non, mais elle le fait. Mais c'est la personne qui a dit non au début, puis qui va le faire finalement, qui va avoir obéi aux ordres du maître. La même chose pour nous. Par la foi, la foi aussi, c'est une question d'obéissance en même temps. Tu dis, OK, Seigneur, tu me dis qu'il faut que je m'approche de toi. Je vais le faire par la foi. Même en dépit de tous les sentiments qui sont contraires dans mon cœur, je vais le faire. Je vais le faire parce que tu me l'as demandé de faire, puis tu as promis que tu étais pour me recevoir. Alors, cet après-midi, s'il vous plaît, qu'on ne se prive pas de la présence de Jésus-Christ, qu'on ne se prive pas de sa compassion, de sa bonté, de son amour envers nous. Sinon, dans le fond, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment une insulte à la grâce de Dieu, puis à son amour, puis à son invitation. Mais Dieu est tellement humble et doux, Jésus-Christ, qui nous invite encore cet après-midi. Alors, approchons-nous de lui, puis faisons-le avec confiance cet après-midi. Amen. Seigneur, merci pour mes frères, encore mes sœurs. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais les difficultés, tu connais peut-être les tentations, les faiblesses, tu connais les souffrances de chacun d'entre nous, Seigneur, cet après-midi. Bien, on veut te demander pardon en tant que fils et filles de Dieu, que peut-être trop souvent, Seigneur, on s'empêche de s'approcher de toi à cause de notre péché, de notre parfois notre négligence envers toi. Seigneur, tu nous répètes, venez à moi cet après-midi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Puis tu nous promets également que tu ne nous mettras pas dehors, Seigneur. Merci pour ton accueil, ta compassion, ta bonté, ta douceur. Merci de nous accueillir encore une fois cet après-midi, alors qu'on va passer un temps de prière et d'intercession, Seigneur. Merci d'agréer nos prières et surtout, Seigneur, fais-nous, transforme-nous selon ta grâce, mais en même temps, qu'on puisse prier selon ta volonté, Seigneur, également. Que notre vie devienne de plus en plus alignée avec ce que tu veux pour nos vies. Transforme-nous, Seigneur, à ton image, je te prie dans le précieux nom de Jésus. Et bénis encore cette assemblée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.